Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, transportons-nous à Lourdes le 8 décembre 1858. Depuis le 11 février, une dame apparaissait dans le creux d'un rocher à une petite fille âgée d'environ 14 ans, Bernadette, fille des Soubirous, la famille la plus pauvre de la ville. La dame faisait réciter le chapelet. Elle demandait de prier et de faire pénitence pour les pécheurs. Seule Bernadette voyait la dame, mais de semaine en semaine, des foules de plus en plus nombreuses étaient présentes lors des apparitions. Le 25 février, une source miraculeuse avait jailli, produisant des guérisons spectaculaires. Maintenant, la dame demandait que les prêtres baptisent en ce lieu une chapelle et qu'on y vienne en procession. « Qu'est-ce que c'est que cette dame ?» dit monsieur l'abbé Péramal, le curé, à Bernadette. « Demande-lui son nom. » Bernadette avait déjà essayé. Dès la troisième apparition, des grandes personnes le lui avaient conseillé. Alors elle était venue à la grotte avec une plume, de l'encre, un papier, elle l'avait tendu à la dame. La dame avait souri et avait répondu « Ce n'est pas nécessaire. » Mais ce 25 mars, Bernadette essaye encore. « Oh, madame, veuillez avoir la bonté de me dire qui vous êtes et quel est votre nom. » La dame sourit, mais ne répondit pas. Alors Bernadette essaya une seconde fois. « Oh, madame, veuillez avoir la bonté de me dire qui vous êtes et quel est votre nom. » La dame ne répondait pas, mais elle rayonnait de plus en plus et semblait dans un bonheur extrême. Alors Bernadette essaya encore une troisième fois, puis une quatrième fois. Alors la dame, qui avait les mains jointes, les étendit vers la terre, ce qui fit glisser sur son bras droit le chapelet au fil d'or qu'elle tenait. Elle était comme dans son apparition de la rue du Bac, les bras et les mains vers le bas, comme alourdie par le poids des grâces qu'elle nous communique. Puis elle joignit de nouveau ses mains et dans une attitude d'action de grâce extrême qui devait être celle qu'elle eut lors de la visitation lorsqu'elle a chanté son Magnificat, elle répondit à Bernadette dans le patois de son pays « Je suis l'Immaculée Conception ». Puis elle disparut. Bernadette ne comprenait pas ce que cela voulait dire. Alors tout le long du chemin qui conduisait de la grotte au presbytère de monsieur le curé, elle ne cessait de répéter pour ne pas oublier « Je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception ». Et lorsque le monsieur le curé ouvrit la porte du presbytère, Bernadette put dire « La dame m'a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». L'abbé Péramal comprit aussitôt, le pape Pie IX avait défini le dogme de l'Immaculée Conception 4 années auparavant. Pour être sûr que ces événements venaient du ciel, monsieur le curé avait demandé un miracle, que la dame fasse fleurir le rosier qui était sous ses pieds, ce qui était impossible à cette période de l'année. Mais le ciel n'avait pas forcément à se plier aux exigences de monsieur le curé. Il avait cependant reçu une confirmation encore plus forte. Bernadette n'avait pu inventer ce mot qu'elle ne connaissait pas et qu'elle ne comprenait pas. C'était donc la très sainte Vierge Marie qui apparaissait dans la grotte sur le territoire de sa paroisse et qui venait confirmer la définition du pape Pie IX. Monsieur le curé Péramal n'était pas spécialement émotif de caractère, mais ce jour-là, il congédia immédiatement Bernadette pour qu'elle ne le vît pas pleurer. Chers fidèles, en conséquence du péché d'Adam, nous naissons tous séparés de Dieu et marqués par la tache du péché originel. Le baptême nous a enlevé la tache et nous a remis dans l'amitié avec Dieu. Mais nous restons blessés toute notre vie, nous restons malades toute notre vie, facilement attirés par les faux biens que le démon et le monde nous présentent pour nous détourner de Dieu. L'homme moderne, dans son orgueil, ne veut pas reconnaître, ne veut pas croire au péché originel. Il pense avec Rousseau que sa nature est bonne, donc il n'a pas besoin d'un sauveur, et personne n'a le droit de lui interdire quoi que ce soit. On voit le résultat. Non, mes frères, seule la très sainte Vierge Marie a été préservée de la tâche du péché originel. Écoutons les paroles solennelles et infaillibles du pape Pie IX. Par un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, la bienheureuse Vierge Marie a été préservée de toute tâche du péché originel au premier instant de sa conception, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain. Mais Dieu ne s'est pas contenté de préserver la Vierge Marie du péché. Il aima Notre-Dame par-dessus toutes les créatures, continue le pape. Il l'enrichit avec une profusion merveilleuse. Il la combla bien plus que tous les esprits angéliques, bien plus que tous les saints, de l'abondance de toutes les grâces célestes, toutes belles. Dans une telle plénitude de sainteté qu'on ne peut, au-dessous de Dieu, en concevoir une plus grande, et que nulle autre pensée que celle de Dieu même ne peut en mesurer la grandeur. Et pour protéger son chef-d'œuvre de toute souillure du péché, le bon Dieu a mis comme un cadenas, si l'on peut dire, le privilège d'impeccabilité. Le Concile de Trente nous explique que la très sainte Vierge Marie ne pouvait pas même faire un seul péché véniel. Oui, son âme est vraiment le jardin fermé, la fontaine scellée dont parle le Cantique des Cantiques, nouveau paradis terrestre pour la Sainte Trinité où elle peut faire tous ses délices et où cette fois le démon ne pourra jamais pénétrer. Bien sûr, la Vierge Marie n'avait aucun mérite de ne pas pécher. Mais on ne mérite pas uniquement lorsqu'on ne pêche pas. Avec sa plénitude de grâce, unie à son impossibilité de pécher, la Vierge Marie pouvait se donner totalement à chaque instant à la volonté divine. Elle pouvait poser des actions plus méritoires que celles de tous les anges et de tous les saints réunis, ce qui la faisait croître en grâce d'une manière accélérée, sans cesse, toute sa vie, jusqu'au jour de son Assomption, où elle était tellement emplie de grâce que son âme ne pouvait plus rester avec son corps et qu'elle s'en détacha pour rejoindre notre Seigneur dans la gloire du ciel. Mais pourquoi la Sainte Trinité a-t-elle mis une telle sainteté dans une créature? Nous en avons eu la réponse il y a quelques instants dans l'oraison de cette messe. Dieu qui, par la conception immaculée de la Vierge, avait préparé à votre Fils une demeure digne de lui. Dignium filio tuo habitaculum preparasti. Si la Vierge Marie a été tellement emplie de grâce, c'est parce qu'elle devait devenir la mère de Dieu, c'est parce que son sein devait devenir le tabernacle du Verbe, de la seconde personne de la Sainte Trinité. La sainteté de la Vierge Marie a été voulue par Dieu en raison de la sainteté infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'elle a été rachetée à l'avance, en vue des mérites futurs de la passion de notre Seigneur. Et nous, mes frères, n'est-ce pas le même Jésus-Christ que nous recevons dans la Sainte Communion? Ne faut-il pas à notre tour que nous soyons immaculés, purs, à notre façon, pour le recevoir? La Vierge Marie, bien sûr, a été pure, immaculée, dès le début, par un don de Dieu. Nous, nous devons le devenir par conquête, par nos prières, par nos sacrifices, en combattant contre les tentations, par la confession. Et ne nous décourageons pas de notre faiblesse. L'Immaculée est une œuvre extraordinaire de la toute-puissance divine. Mais cette même puissance, agissant par Notre-Dame, est capable de nous rendre purs et de nous conserver purs dans un monde de péché afin de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, de vivre de sa vie, ce qui est notre vocation chrétienne, notre vocation de baptiser. Et c'est ce que l'Église demande à Dieu pour nous en cette fête, c'est la deuxième partie de l'oraison. Daignez par l'intercession de celle que vous avez préservée de toute tâche en prévision de la mort de ce même Fils, nous faire parvenir purs nous aussi jusqu'à vous. C'est la grâce à demander aujourd'hui à Notre-Dame, par Notre-Dame en cette fête, qui est en même temps la fête de la pureté. Mais cette année, la fête de l'Immaculée Conception revêt une portée toute spéciale. Dans quelques semaines, nous serons en 2017, année qui marquera le centenaire des apparitions de la Très Sainte Vierge Marie à Fatima, au Portugal. Une année qui nous rappellera que Dieu a confié les temps actuels au cœur immaculé de Marie. Il y a 2000 ans, l'Immaculée Conception a été pour le monde l'aurore du salut, parce qu'elle a attiré sur cette terre le Sauveur du monde, qui a permis aux hommes de sortir des ténèbres, de l'erreur et du péché dans lesquels l'avait plongé le péché d'Adam, la faute d'Adam. Aujourd'hui, alors que nous approchons plus ou moins de la fin des temps, les ténèbres sont revenues sur cette terre, parce que les hommes ont rejeté notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà l'Immaculée qui revient, qui est revenue il y a 100 ans, qui s'est montrée à 3 enfants dans le ciel du Portugal. Parce que ce rejet de notre Seigneur par les hommes aujourd'hui a des conséquences dramatiques. Jamais dans l'histoire, depuis notre Seigneur Jésus-Christ, autant d'âmes ne sont tombées en enfer. C'est pourquoi le 13 juillet 1917, la Vierge Marie a montré l'enfer aux enfants. Et elle leur dit, « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Afin de les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et l'on aura la paix. Je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, et la communion réparatrice des premiers samedis. Aujourd'hui, où plus aucune solution du côté des hommes n'est à espérer pour le redressement des sociétés et pour le redressement de l'Église, il est temps d'examiner avec attention les demandes de notre Mère du Ciel. Première demande, la communion réparatrice des premiers samedis de chaque mois. De quoi s'agit-il ? Le premier samedi de chaque mois, pendant 5 mois consécutifs, se confesser, la confession peut être 8 jours avant ou après, communier, la communion peut être reportée au lendemain s'il y a un empêchement reconnu par un prêtre, réciter le chapelet et méditer pendant 15 minutes sur un ou plusieurs mystères du rosaire en réparation. Que s'agit-il de réparer ? Les blasphèmes de ceux qui se moquent ou qui ne croient pas dans les privilèges de la Très Sainte Vierge Marie, donc dans ce qu'elle est, à commencer par son Immaculée Conception. Pourquoi réparer spécialement ce péché ? N'y en a-t-il pas de plus grave ? La Très Sainte Vierge Marie est le seul moyen pour aller à notre Seigneur Jésus-Christ. Si l'on attaque positivement Notre-Dame, en se moquant d'elle, en refusant de croire ce qu'elle est, on se met dans l'impossibilité de se sauver. Cela équivaut à un péché contre le Saint-Esprit. Mais Notre-Dame est une mère, et voyant qu'il y a des hommes qui sont damnés pour des fautes qui sont contre elle, la Vierge Marie a obtenu de son Fils que cette petite pratique des premiers samedis répare les péchés de ces malheureux, obtienne leur conversion et leur salut. Et les cœurs de Jésus et Marie ont tellement à cœur cette dévotion qui leur donne des âmes, qu'ils ont promis à qui l'embrasseraient pendant 5 mois consécutifs le salut. Bien sûr, il est conseillé de continuer après les 5 mois, parce qu'il y a encore des âmes à sauver et à donner au cœur de Jésus et de Marie. Mais la Vierge Marie a voulu aller plus loin. Elle a voulu attaquer le mal de notre époque à sa racine. Pourquoi tant d'âmes tombent-elles en enfer aujourd'hui? Parce que notre Seigneur ne règne plus? Parce que la société moderne est une société athée, où les incitations au péché sont continuelles? Alors vient la deuxième demande, que le pape, en union avec les évêques du monde entier, consacre la Russie au cœur immaculé de Marie. Étonnement, pourquoi la Russie? Eh bien, c'est parce que c'est de ce pays qu'a surgi cet athéisme social, fruit du communisme, et qui s'est répandu aujourd'hui dans le monde entier, qui a envahi le monde. Et par un renversement des choses qui n'est pas rare dans le plan de la Providence, c'est de la conversion de ce pays par Notre-Dame que viendra la paix du Christ, par le règne du Christ, pour le salut des âmes. Il n'y a qu'une seule chose à faire, qu'un pape ait suffisamment de foi pour donner solennellement la Russie à la Vierge Marie, et tout se déclenchera. Et chacun, nous pouvons avancer ce jour, et ce n'est pas difficile. Écoutons attentivement ce que nous dit Sœur Lucie. À maintes reprises, pendant les précieuses heures que je passais en sa compagnie, Notre-Dame insista sur l'accomplissement du devoir quotidien selon notre condition de vie et l'offrande de cet effort en réparation de nos péchés et pour la conversion des pécheurs. Ceci est la condition fondamentale qui nous permettra de repousser le flot des forces du mal qui menace de submerger le monde d'aujourd'hui et qui nous apportera comme satisfaction la conversion de la Russie et un temps de paix pour l'humanité. Alors gardons l'espérance, mais mettons-nous au travail. Tout à l'heure, pendant la procession, ayons au cœur deux invocations, deux oraisons jaculatoires, deux cris de notre âme tirés de la liturgie de ce jour. Tota pulchra es Maria, comme vous êtes belle, ô Vierge Marie. Oui, en ce jour de sa fête, félicitons, remercions notre Mère du Ciel pour ce qu'elle est. Deuxième invocation, Traenos, Virgo Immaculata. Attirez-nous à vous, très sainte Vierge Marie. Arrachez-nous au piège de notre nature blessée du monde et de Satan. Et donnez-nous à votre Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.